Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
Mais c'était décevant de voir en fin de semaine.
Mais le calibre de jeu de l'LPGA, là, les gens qui suivent moins le golf n'ont pas idée à quel point c'est fort. Là.
Mais ils partent de où? Brooke, c'était ça notre question.
Brooke Anderson, là,
ouais.
C'est une machine de golf. On parle pas assez d'elle au Québec particulièrement. D'après moi, à Toronto, il en parle un peu plus parce que c'est une fille de l'Ontario. Mais Brooke Anderson, Steph, c'est la Wayne Gretzky du golf féminin au Canada. Là.
Okay.
Il n'y a pas d'autre mot. Là.
Je comprends.
C'est un sport qui est envahi par les Coréennes. Puis elle performe bien. Il n'y a presque pas d'Américaines dans le top 15. Là.
C'est vrai. Hein? C'est beaucoup des filles.
Puis il y a toujours une Canadienne.
Ouais. OK. Est-ce que...
On a gagné beaucoup de tournois, déjà, là.
Et j'aimerais ça, on checkera ça cette semaine, pour savoir, ils partent de où, ouais.
Ben, ils jouent des terrains. Mettons les gars, comme au Masters, 7500 verges, il n'y a pas un terrain à Québec qui est aussi long que ça, là.
OK.
OK? Au Masters, Augusta, c'est 7554 verges cette année. Les filles vont jouer des terrains d'à peu près, je vais te dire, 6400.
Okay. Mais des blancs, là, moi, c'est combien de verges ici?
Ça va être ça. L'équivalent des blancs dans la région de Québec.
OK.
Pour la plupart des terrains.
À peu près 6400 verges.
Comme hier, là, nous, on arrive d'un par 4 des fois, puis on trouve que 400 verges, c'est long. En tout cas, moi, je trouve ça long. Je sais pas les gens à l'écoute, mais moi, un par 4 de 400, je trouve ça long. Mais hier, Brooke Anderson...
Mais 400 verges de côté, c'est pas loin. Mais 400 verges douette, c'est loin.
Exact.
Je sais pas comment ils ont fait ça.
Là, hier, le 16 ou le 17, c'est un par 4 de 402 verges.
OK. Fait que...
Mais ce qui m'a impressionné, Steph, au dernier trou, hier, il y avait un lac, là. Nelly Korda puis Brooke Anderson, il y avait 190 puis 197 à faire. Mais il ne fallait pas y aller en roulant, il y avait un lac.
OK.
Puis ils ont passé par-dessus.
Ils ont vraiment.
De quoi ça, c'est du stock, là.
OK. Je le comprends qu'ils sont fortes. J'avais joué avec une fille, moi, qui était dans les collèges américains à cette époque-là.
Okay.
Ça fait déjà une vingtaine d'années de ça.
Une Québécoise?
Oui, une Québécoise.
Où t'allais jouer?
Madame Drouin.
Véronique Drouin.
Véronique Drouin.
Oui, je sais pas.
De Saint-Ange. Je me semble qu'elle venait de Saint-Ange.
Oui. Elle jouait à Frampton, elle, son golf.
OK. Ah, oui. Puis après ça, elle a joué dans NCAA féminine.
Oui.
Et moi, j'ai commencé à faire de la radio à Sainte-Marie.
Okay.
Puis on avait été jouer une ronde avec elle. Mais tu sais, j'étais déjà pas bon. Là. Fait que, mais c'était gênant. Tu sais, elle, ouais. Tous ses coups étaient parfaits.
Ouais,
tu sais, ouais. Fait que c'était d'une précision torché,
ouais.
Right and left. Là. Fait que. Alors, Karen, toi, ton golf, comment il va?
Ouais, c'est pas encore commencé. Hein.
Ah ouais?
Mais je me pratique dans mon sous-sol avec mon petit putting mat que j'ai reçu à Noël.
OK. Puis ton handicap?
Non, on n'est pas encore rendu là, Steph.
Ah non?
Non.
Je pensais que tu allais le nommer, ton handicap.
Il s'appelle Stéphane Dupont, mon handicap. C'est mon plus gros.
Mais bon, merci, Dan. Là, on s'arrête. Vous êtes dans Dupont le matin.
Dupont le matin.
En barque, on ira pas vite. C'est pas parce qu'on se ralentit, c'est parce qu'on n'est pas vite. Fait que on jette un coup d'œil dans l'actualité du jour. Tous les membres de l'équipe ont choisi un sujet d'actualité et on va, que ce soit d'actualité sportive, culturelle ou encore de l'actualité politique, tiens, pourquoi pas, internationale aussi. Il y en a pour tous les goûts, bien sûr. Alors, c'est ce dont on va faire dans quelques secondes. Mais avant, vous dire que c'est moins 4 degrés. C'est plein soleil ce matin. Quelques nuages vont s'ajouter en journée aujourd'hui. On a un faible 6 degrés en après-midi, mais tard en après-midi. Honnêtement, ce qui est encourageant, c'est la journée de demain où on pourrait même atteindre 17 degrés en après-midi, mais la chaleur va arriver avec de l'instabilité, des nuages et de l'instabilité en fin de journée. Donc, c'est de la pluie en fin de journée mardi et pour mercredi, toute la journée. Retour du soleil ensuite de ça pour jeudi et vendredi. Mais les valeurs, la nuit, on regarde à long terme, là, c'est quand même moins 4 mercredi, moins 1 jeudi et 2 degrés seulement vendredi. Donc, ça baisse quand même pas mal. Là, les érables doivent plus couler, là. C'est correct, les cabanes à sucre, là. C'est une année record, hein. C'est drôle, quand ça va bien, bien mal, il y a des reportages à tous les deux jours à la TV pour dire, pour un acériculteur qui se plaint, qui va manger ses bas, puis qui mange l'argent. Cette année, ce serait le fun d'avoir un reportage sur les quantités. On m'a parlé à peu près partout d'une fois et demie la production normale. Fait que et c'était plus aussi que l'année précédente. Ça a été une année qui semble avoir été record. Au niveau de la qualité, ça, j'en sais absolument rien. Je connais pas assez ça, mais ça a été quand même une très grosse saison pour les acériculteurs dans la région. En bas, on ira pas vite. Pierre Blais, on commence avec toi. Que se passe-t-il?
Quelques faits divers tragiques pour commencer. On parle de deux accidents mortels de VTT, d'abord en Beauce et ensuite dans Portneuf. Commençons avec la Beauce. Donc, un homme d'une trentaine d'années qui est décédé à la suite d'un accident survenu samedi en fin de journée à Saint-Gédéon. Accident, une collision de VTT, deux VTT qui sont frappés. Donc, sur le sixième rang, l'homme a été frappé par l'arrière, donc lors d'un ralentissement, c'est ce qui est survenu. Et dans l'autre cas, dans Portneuf, plus précisément...
Okay, le gars qui est décédé, tu penses c'est lui qui s'est frappé par l'arrière?
C'est ce qu'on a dans la nouvelle, oui.
Ah ben, c'est tragique, ça. Puis c'est rare, les... Tu sais, je veux dire, un accident seul en VTT, tu sais, des gens qui vont perdre le contrôle, qui vont frapper un arbre, parce que là, on est dans le bois, évidemment, on va comprendre ça. Là, on va être moins surpris. C'est quand même pas des choses qui arrivent à toutes les semaines. Ouais. Mais là, accident comme ça, c'est très particulier.
Et l'autre circonstance que tu as expliqué, ben c'est ce qui est arrivé dans Portneuf. C'est un homme qui est décédé samedi soir vers 20h sur le rang Saguenay à Saint-Raymond. Il a perdu le contrôle de son VTT, éjecté du VTT, s'est retrouvé coincé en dessous tout simplement. Et on a d'ailleurs le père de la victime qui nous a écrit ce matin par texto.
OK.
Qui nous a passé quelques infos, notamment que c'était un père de famille trois fois plus tôt qu'une.
OK.
Et que, ben, c'est ça.
C'est tragique. Donc, il est décédé, lui, sur les lieux de l'accident. C'est ça que j'ai compris?
Ouais.
OK.
Ensuite, du côté de Cap-Rouge, dans le bas de la côte de Cap-Rouge, au coin de Provencher de la côte de Cap-Rouge, un homme dans la soixantaine qui a fait un accident samedi soir aux alentours de 19h, ne portait pas son casque, un accident de vélo électrique. Et on dit qu'il est dans un état critique depuis ce temps. Il n'y a pas de véhicule impliqué dans l'accident, mis à part le vélo, là. Donc ça, c'est pour ce qui est de cet homme de 60 ans. Maintenant, te rappelles-tu de l'itinérant Gilles Gosselin qui a été assassiné ici à Québec? On a déposé des accusations réduites finalement à l'endroit de deux jeunes hommes, Nathan Fréchette et Zachary Jenkins Verret. Les deux étaient accusés de meurtre premier au départ. Finalement, on a décidé d'y aller avec une accusation de meurtre deuxième degré. Donc, les deux jeunes hommes ont 19 et 23 ans accusés dans cette histoire-là. Et s'il y a condamnation, ben vous savez que la différence, c'est la possibilité de libération conditionnelle qui arrive plus tôt dans un cas de meurtre deuxième là par rapport à meurtre prémédité. Donc, entre 10 et 25 ans, éventuellement, s'ils sont reconnus coupables, c'est le juge qui devra trancher, là, à savoir quand ils seront éligibles. Si, bien sûr, ils sont reconnus coupables, je le mentionne encore une fois. Et on a retrouvé un gars de Beauport, du côté de Winnipeg. L'affaire, c'est que pour une deuxième fois, en pas très longtemps, ce jeune homme-là, qui s'appelle Malik Regele Marc, 24 ans, a été arrêté pour traite de personnes. Il a forcé une jeune femme à se prostituer. La jeune femme a réussi à contacter une amie ici à Québec pendant une courte période de temps où elle était seule. La jeune femme, ben en fait, l'amie de la jeune femme a contacté la police de Québec. La police de Québec a contacté la police de Calgary parce que c'est... de Winnipeg, pardon. Lui, il habitait à Calgary, là. Mais en contactant la police de Winnipeg, rapidement, dans la journée même, ils ont réussi à le localiser et à procéder à son arrestation. Alors lui, cet homme-là de 24 ans, Malik Regele Marc, a été arrêté le 21 mars dernier, mais on vient de l'apprendre là, de façon officielle. Il avait rencontré cette jeune femme-là dans un bar à Montréal en janvier. En quelques semaines, ça a dérapé. Mais dans les circonstances, on a déjà entendu parler d'histoires qui se déroulent sur des années. Là, relativement rapidement, on a réussi à intervenir, mais ça reste que cette jeune femme-là certainement...
C'est quoi le lien avec Québec, là?
C'est un jeune homme originaire de Beauport.
Il était originaire de Beauport,
ouais,
OK.
Puis il a traîné une femme de Québec... Jusqu'à là-bas.
Okay.
Jusque dans l'Ouest canadien. Ça fait le tour pour moi.
Parfait. Ouais. Et donc, c'est relativement tranquille dans l'actualité aujourd'hui. Là, même si on jette des regards, on peut bien s'étendre sur la guerre en Ukraine. Vous savez que là, les Américains vont développer des budgets énormes pour les aider, mais c'est encore quoi on en est. Sais-tu, on a-tu franchi les deux ans ou on s'en va vers ça?
La guerre de l'Ukraine, février 2022,
ouais.
Non? C'est-tu ça?
Oui.
On a franchi les deux ans.
Ouais. Là, évidemment, ce qui se passe à Gaza également. Hier, je voyais, tout le monde en parle, il y avait un médecin Médecins sans frontières qui était là, qui travaillait à Gaza auprès des Gazaouis pendant 14 mois, je pense, où elle était là-bas. Puis, tu sais, je comprends, elle relatait des choses extrêmement tristes. Puis moi, je reviens toujours au même point. Tant que les Palestiniens vont laisser le Hamas se cacher sous les enfants, puis sous les hôpitaux, puis sous les femmes, pour ça, parce que c'est des peureux. C'est là, c'est, tu sais, les Palestiniens du Hamas, pas tous les Palestiniens du Hamas sont des peureux. Ils se cachent, donc, derrière des gens que tu veux pas atteindre. Et ils laissent faire ça. Fait que ça amplifie leur misère d'autant plus. En 2006, quand je suis allé en Afghanistan, je me souviens, c'était la même chose. C'était les soldats, peu importe du pays, disaient la même chose. Disaient, écoute, on sait plus qui est afghan et qui est afghan de, voyons, comment il s'appelait la gang à Ben Laden des...
L'État islamique.
Non, c'est pas l'État islamique.
C'est les talibans.
C'est les talibans. On ne différencie pas. On différencie pas un taliban d'un afghan. Et encore plus avec la burqa, donc le grand drap bleu au complet, des hommes se cachaient, que les femmes qui portaient le drap bleu avec le petit grillage au niveau des yeux et de la bouche, mais c'était pas vrai. Les soldats canadiens, entre autres, m'expliquaient que quand ils voyaient une femme, donc un drap bleu, là, j'appelle ça comme ça parce que je connais pas ça, mais ils lui regardaient les orteils. Et s'il y avait du poil sur les orteils, ça pouvait arriver qu'il tire instantanément. Parce que c'était pas une femme. Fait que ça voulait dire que c'est quelqu'un qui pouvait avoir soit une ceinture d'explosifs. Et même dans ces années-là, souvenez-vous, en 2006, là, il y avait comment on appelle ça, quelqu'un qui se fait exploser?
Des kamikazes,
femmes. Ce qui n'existait pas avant. Donc, bon, ça c'est ça se passe à l'international, mais là, on va revenir donc plus près de chez nous. Qu'est-ce que tu as choisi, Karen, comme nouvelle ce matin?
C'est une nouvelle qui touche une famille de Laval qui sont allés en vacances à Cuba au mois de mars lorsque le père a fait une crise cardiaque alors qu'il était dans la mer et il n'y avait pas de sauveteur à proximité. Donc, c'est sa fille qui était avec lui a appelé son frère pour qu'il vienne sortir le père. Et écoute, c'est une histoire absolument d'horreur là, parce qu'il y avait pas de médecin ni d'infirmière à l'hôtel sur place. Le corps du père a été mis sur une chaise longue recouvert d'un drap pendant à peu près 8 heures jusqu'à temps qu'on aille qu'on récupère la dépouille, mais le pire s'en vient. C'est que lorsqu'ils ont rapatrié le corps au Canada, ils sont allés pour identifier le corps et ce n'était pas le corps de leur père, mais plutôt d'une personne qui était 20 ans plus jeune, avec des tatouages. On pense que c'est un Russe et les autorités consulaires russes, eux, ont depuis retracé le corps de cet individu-là, l'ont rapatrié, mais eux se retrouvent sans le corps de leur père, ne savent pas il est où, essaient de faire des démarches avec les autorités et il y a comme personne, on dirait, qui s'occupe de ça, qui est tenu responsable de ça. Je sais pas, c'est pas une valise, là. On parle de...
Non, mais on est à Cuba. Tu sais, si à Haïti, tu me racontes une histoire semblable, ben, je vais te dire la même affaire. Tu sais, il y a des pays où c'est extrêmement difficile, là. C'est triste, terrible, mais en même temps, tu sais, si tu vas à Cancun, ça arrive pas. Ça peut arriver que tu décèdes, là. Il peut y avoir... D'ailleurs, on a parlé un petit peu. Ça a-tu été confirmé? On avait un gars de Québec, on l'a pas su. Hein? On avait entendu raconter une histoire de quelqu'un qui s'était noyé aussi lors d'un voyage dans le Sud. Mais je comprends qu'eux autres, ça doit être très, très difficile là, de vivre ces moments-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec le corps du Russe? Ils ont-tu renvoyé? C'est dur à renvoyer par la masse?
Ben non, mais tu vois, là, les autorités consulaires russes, eux autres, se sont occupés de rapatrier le corps à la bonne personne et tout. Mais tu sais, du côté... ils ont fait des démarches auprès de l'ambassade du Canada à La Havane pour rapatrier le corps. Puis pour l'instant, là, on est comme sans nouvelles.
Okay.
Donc c'est comme de la faute à personne. Il y a personne qui est responsable de ça. Moi, toutes mes pensées sont avec cette famille-là parce qu'en plus de, tu vas là en vacances pour avoir du plaisir et tout, pour te créer des souvenirs. Là, t'as ça qui arrive, donc c'est extrêmement traumatisant. On s'entend. Mm-hmm. Puis en plus de ça, quand le corps arrive, ben c'est pas le bon. Je trouve que c'est inacceptable.
Et vous savez que pour qu'un corps soit comme ça rapatrié, il se doit d'être dire naturalisé, parce que là, il peut être embaumé, il peut être incinéré. Donc, tu peux pas voyager avec un corps et les liquides corporels à l'intérieur, ça, tu peux pas faire ça. Fait que, si mettons, l'inversion des corps, si le Russe, lui, la famille a dit, ben, incinérez-le, puis rapatriez ça chez nous, tu sais, parce que là, les coûts seront pas les mêmes, ben là, ils vont se ramasser avec quelqu'un qui a déjà été incinéré sans nécessairement que ça avait été leur choix à eux.
Ouais, puis ça, c'est l'autre chose, là, ils ont dû débourser près de 10 000 $ pour rapatrier le corps à Montréal.
Ouais, c'est ça, hein? OK. Triste chose. Nicolo, toi, ta nouvelle?
Le 30 novembre 1983, un plombier de 55 ans a été assassiné. Monsieur George Lehman a été assassiné à Saint John au Nouveau-Brunswick.
En 83.
Oui.
OK.
Quelques mois plus tard, deux hommes ont été condamnés pour le meurtre. Et ces deux hommes-là ont toujours maintenu leur innocence. OK? Un des deux s'appelle Mailman, l'autre s'appelle Gillespie. C'est des gars qui prenaient un coup ensemble. C'est des gars qui étaient des roughs un peu, tu sais, ils se battaient de temps en temps, puis tout ça, surtout Mailman. Puis Mailman s'était sauvé d'une accusation de tentative de meurtre contre un policier quelques années avant. Alors, lui maintenait à ce moment-là, la police... C'est drôle parce qu'on a parlé de ça la semaine dernière, toi puis moi. Ben, nous autres ici, là. Ils appellent ça en anglais « tunnel vision ». Ça veut dire que t'es concentré sur...
Ouais.
Tu vois rien d'autre.
C'est ça.
OK? Que t'as décidé que c'était ce suspect-là. Puis tu trouves des...
Pour une preuve plus ou moins solide, ah ben c'est ça, c'est lui. Ah, c'était le beau-frère, c'est lui, c'est lui.
C'est ça.
Puis là, tout ce qu'il y aura de d'autres preuves autour, ben là, tu vas les moins les considérer.
C'est ça. Malgré qu'il y avait un alibi, les deux hommes sont condamnés en 84. Il y en a un qui va faire 21 ans de prison, l'autre 18. OK? Pendant leur séjour en prison, à un moment donné, il arrive un autre gars qui dit que qui était un avocat qui dit... moi aussi, j'ai pas fait... lui était accusé d'avoir tué sa femme. C'est drôle parce que ça fait vraiment Shawshank. Puis il était innocent. Puis il a commencé à travailler dans la librairie, dans la bibliothèque de la prison. Puis il a aidé les gars à envoyer des lettres. À chaque fois que les gars organisaient, je parle de Mailman et Gillespie, à chaque fois qu'il y avait un peu d'argent, il embauchait un détective privé, puis il faisait des démarches. Même que Mailman organisait des parties de poker à l'intérieur de la prison pour générer de l'argent, pour pouvoir envoyer...
Se défendre, pour se sortir de là.
Et se défendre. Les deux gars ont fait leurs deux... les sentences complètes, donc étaient en liberté conditionnelle depuis ce temps-là. Et le monsieur qui a été en prison, le troisième gars là, qui était avocat, a continué à les aider. Et après ça, il y a un autre organisme qui s'appelle Innocence Canada, je pense, qui est un organisme qui aide à défendre les gens qui se disent...
ça, c'est des étudiants au barreau qui choisissent un dossier. Je pense qu'ils sont subventionnés pour un dossier par année. C'est là-dessus que le...
Projet Innocence.
Projet Innocence, la série ou la télésérie ou le
est
roman
basé, okay.
Est basé là-dessus, où on choisit un dossier parce qu'il semble y en avoir quelques-uns par année. Tu sais, est-ce que le juge de Lille aurait pu être dans cette lignée-là? T'sais, quelqu'un qui clame son innocence puis qui manque juste de moyens de le prouver. C'est pas le cas dans le juge de Lille, mais juste vous démontrer que à travers le Canada... quelques fois par année, il y a des dossiers comme ceux-là. Et il y a d'ailleurs, puis je vais vous compter après, mais des documentaires fort intéressants qui sont diffusés au canal Investigation là-dessus, qui s'appelle « Coupable ou innocent ». Et c'est vraiment intéressant.
Les avocats, les gens impliqués dans Innocence Canada ont continué l'enquête et tout ça. Et en 2019, on a trouvé des traces de... paiement par la police de Saint John au témoin de 16 ans qui a fait condamner les deux gars. Alors effectivement,
ça, c'est grave, hein, je vois le vent.
Ils étaient innocents. Ils ont fait, comme je te dis, 21 et 18 ans de prison. Se sont vraiment liés d'amitié parce qu'ils n'étaient pas si chum avant de se faire envoyer en prison, mais ils étaient bien chum après. évidemment parce qu'ils ont passé leur vie à se défendre. Et en janvier 2024, 40 ans après l'histoire, ils ont été déclarés innocents.
OK.
Les deux. Et M. Gillespie est mort, je pense, la semaine passée.
Ah, ouais.
À 80.
À 80 ans.
Quelques semaines après. Puis l'autre a le cancer.
OK.
Terminal.
Fait OK. Que,
ils ont passé la majorité de leur vie d'adulte en prison. Tout le reste de leur vie à essayer de prouver leur innocence. Puis à la fin de leur vie,
Ils l'ont eu, mais ils n'auront jamais été dédommagés pour l'erreur.
Je peux penser qu'est-ce que ça te fait de vivre tout ça?
Ça doit être extrêmement...
C'est un sentiment d'injustice incroyable.
Oui, absolument. Est-ce que, maintenant, juste pour aller plus loin, est-ce qu'on voit si les gens qui ont fait le paiement, là, les gens qui ont envoyé ces gars-là en prison de façon criminelle, j'allais dire, parce que ils ont agi criminellement, de façon comme des criminels pour les envoyer là. Est-ce que ça, il y a des accusations qui peuvent être... c'est pas tout le monde qui est mort dans
J'ai pas ça dans l'article de Radio-Canada, mais ça fait quand même 40 ans. T'sais.
Je comprends ça.
Ils ont réouvert... en fait, un des juges, en 2019-20, a ordonné un nouveau procès. Puis ce qui est arrivé, c'est que la couronne a pas déposé d'accusation dans le nouveau procès.
Fait qu'ils ont été acquittés.
Fait qu'ils ont été acquittés comme ça.
Ah, je te dis. Écoute, se faire accuser faussement. Tu sais, au Canada, on a quand même un système de justice beaucoup plus solide. Là, on comprend que c'est des policiers qui ont fraudé par en arrière, puis il y a un témoin, mais tout a été présenté devant la cour. Et parce que hier, je vous le dis, là, j'ai écouté ça, j'en ai écouté deux, là, mais je veux vous en raconter rien qu'un. Des documentaires coupables ou innocents. Là. Et c'est l'histoire d'une femme, si vous voulez le taper, là, elle s'appelle, Pierre, s'appelle Rebecca Hogg, à Cleveland, en Oklahoma, en 2019. C'est que la justice américaine, ce que je réalise, là on est en 2019, fait que c'est tout à fait récent, ce que je réalise, c'est qu'ils ont besoin d'un coupable. Okay? Ils veulent absolument que chaque dossier ait son coupable. Et tu dis, ben oui, mais c'est à peu près normal. Il y a toujours un coupable dans une histoire. Et là, c'est l'histoire de cette fille-là, Rebecca Hogg, donc qui était quand même pas vieille.
29 ans.
Ouais. Elle est mère d'un garçon de 2 ans, qu'elle a eu avec un gars comme ça, un genre de one night, puis le gars veut rien savoir. Fait que elle est bien attristée de ça, elle décide de garder l'enfant. Le gars sera jamais dans sa vie, mais elle a ce petit garçon-là. Elle est croupière au casino. Elle travaille au bar ou croupière, puis elle travaille au casino, en tout cas. Elle fait ses affaires, puis elle s'arrange du mieux qu'elle peut, puis à un moment donné, elle rencontre un gars qui devient son chum. Un gars qui semble pas avoir trop d'antécédents, c'est quelqu'un qui des tatous, mais tu sais, qui l'aide, il s'occupe beaucoup de l'enfant, il y a eu beaucoup de photos avec l'enfant, mais tout ça s'est passé quand même sur assez courte période, tu sais, pas des années, l'enfant a 2 ans. Ça veut dire dans le dernier 6 mois ou à peu près, il vient cohabiter avec Rebecca Hogg et elle travaille beaucoup, elle doit s'arranger pour faire vivre sa famille, tu comprends? Fait que elle fait des doubles chiffres entre autres, elle travaille beaucoup puis pour arriver, elle travaille de soir, fait que c'est son chum qui vit avec elle qui garde l'enfant. Et le 31 décembre pour défoncer l'année, elle travaille, pas sur le party, là. Elle fait un double chiffre, elle travaille, elle rentre à la maison après 3h30 du matin, elle voit que son chum est couché avec son fils dans le lit, elle se glisse entre les deux et s'endort. Au petit matin, elle se réveille vite parce que son chum il se lève pour aller travailler et elle reste couchée avec son fils. Elle se réveille, il est 11h du matin. Et là, elle comprend pas pourquoi son fils de 2 ans, tu sais, à 11h du matin, il est
pas réveillé. Ouais.
Il est pas réveillé. Elle lui donne un bec. Il est froid. Elle panique. Il est mort. Et là, elle appelle le 911. On entend l'appel. C'est la crise, évidemment. Fait que là, les secours arrivent. Ils vont isoler la femme. Ils vont même lui interdire d'embarquer dans l'ambulance avec son enfant. Parce que là, il est soupçonné vrai. Tu sais, là, il y a un enfant de mort. Puis elle est tout seul avec. Fait que... Elle sera interrogée pendant de longues heures et on va être capable de confirmer ses alibis, donc du fait qu'elle était pas là, et aussi que c'était l'autre gars qui était en charge de l'enfant. Et là, on va tenter de le rejoindre. Même elle, on voit les vidéos là où elle est en interrogatoire avec la police, elle va tenter de l'appeler. Tu sais, pour lui dire, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Et il répondra pas. Il sera donc en cavale pendant 4 jours. Et la police va, avec tout ce qu'ils vont trouver, conclure que c'est vraiment lui. Et là, il y aura une autopsie sur l'enfant. Il meurt d'une fracture du crâne. Donc, tu vois qu'il a subi un coup extrêmement violent et ça l'aura tué. Là, vous dites, bon, quelle histoire, là, on sait c'est qui, on sait c'est quoi. Après 4 jours, il retrouve l'individu, je me souviens pas de son nom, là, mais c'est pas important. Il retrouve l'individu qui s'est pendu.
Il s'appelle Trent.
Trent, c'est ça. Son famille, c'est Trent, ouais. C'est Christopher Trent, me semble. Fait qu'il s'est pendu. Puis il a écrit il s'est pendu après un arbre et il s'est créé un genre de petit épitaphe lui-même. Puis il a marqué, il s'est excusé à sa mère, il a gravé ça sur un morceau de bois. I'm sorry mom, il s'est excusé à sa mère. Et il dit également, tout en ayant gravé ça sur un morceau de bois, que ce n'est pas Rebecca qui a tué l'enfant. Que, il dit pas que c'est lui.
Il a écrit Rebecca is innocent.
C'est ça. Il écrit ça sur un morceau de bois. Fait que la police le retrouve, on ramasse ça, puis on a le criminel. Et là, les funérailles de l'enfant ont lieu et tout ça. Et on part et on va arrêter la jeune femme, Rebecca Hogg. On va la mettre en prison pendant 5 mois. Et elle est accusée d'homicide involontaire. Ce qui lui vaut, ce qui peut lui valoir une peine de prison de 38 ans, si je me souviens bien, pour homicide involontaire. Puis là, elle dit, ben comment ça, homicide involontaire, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, ils vont vouloir démontrer qu'elle a confié son enfant à quelqu'un qui n'aurait pas mérité, c'est ça, pas apte à avoir ou à garder son enfant. Mais là, elle a dit, mais là, c'est parce que moi, j'ai rien vu aller de ça. Et là, on va s'en aller vers son procès à elle. Elle sera aidée par bien du monde, bien des avocats qui vont vouloir l'aider. Parce que la poursuite se base sur des choses qui sont quand même intéressantes. Ils vont trouver dans son cellulaire des photos. Des photos de son fils qui datent à peu près, mettons au maximum, 1 mois avant la mort de son garçon, où elle va prendre une photo, par exemple, de son oreille, où il y a un bleu au-dessus de l'oreille. Puis elle va dire, ben oui, je l'ai pris en photo, puis j'ai demandé à Trent, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il est tombé comme ça. Fait que ça reste de même. Puis là, il va se passer encore une fois quelques semaines, et elle va arriver à la maison encore une fois, et l'enfant va avoir des bleus d'en face, dans le front. Mais là, il y a un bon bleu, par exemple, dans le front, là, jusqu'aux cheveux. Et encore là, elle va prendre une photo, puis elle dit confronter son chum à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais il dit, tu sais, il court partout. Le petit gars, t'as ressemblé à agité, là. Et il courait partout, puis il va dire, non, j'ai rien fait. Fait que, donc, mais elle a les photos. Fait que la poursuite va dire, ben là, écoute, tu le savais qu'il était violent avec ton fils, t'as des photos. Oui, mais elle dit, j'essayais de le démontrer. D'ailleurs, on va même trouver, en fouillant dans son ordinateur, quelques jours avant le décès, qu'elle est allée sur un site américain des violences faites aux enfants pour essayer de comprendre c'est quoi. Fait que là, on va lire.
Quels sont les signes qui montrent qu'un enfant peut avoir été...
Changement d'attitude de l'enfant majeur. Elle dit, c'était pas le cas. Et là, elle va lire les signes qu'on leur dit pour essayer de découvrir s'il y a de la violence faite à leur enfant.
Pis ça concorde pas.
Ça concorde pas. Puis elle va le confronter le gars encore une fois et ça concorde pas. Et ensuite de ça, il y avait d'autres... il y avait plusieurs preuves qu'ils avaient accumulées qui l'innocentaient complètement. Mais quand ils vont arriver au procès, tu sais, entre autres, mettons là... Ah oui, l'enquêteur au dossier... Mm-hmm. Il va rencontrer le rapport du médecin, par exemple, suite à l'autopsie. Et là, lui, cette conversation-là va être enregistrée parce que la travailleuse sociale qui a été impliquée dans le dossier, elle va mettre son cellulaire sur la table en enregistrant la conversation pour elle, pour compléter ses notes au bureau. Mais tu sais, c'est pas une conversation enregistrée, j'allais dire légalement. Tu sais, genre dire, t'es au courant, t'es enregistré. Ou elle, c'était pour compléter ses notes. Mais elle va garder cet enregistrement-là. Et T'entends clairement l'enquêteur au dossier. Donc, voici comment ça s'est passé. C'est lui qui l'a tué. Puis, est-ce que elle était... Puis là, la travailleuse sociale demande, est-ce que vous croyez qu'elle pouvait être au courant de ces violences-là? Il dit, c'est impossible. Il dit, voici comment ça s'est passé. Lui, il dit, c'est impossible. Elle n'a rien à voir dans cette histoire-là. Et ça, c'est l'enquêteur principal au dossier, même s'ils ont été quelques-uns à enquêter. Alors, lui, il est clair. Mais quand elle va arriver au procès de la femme, le juge va rejeter l'enregistrement. Tout ce qui était pour défendre la femme va être rejeté. La branche de bois où le gars écrit qu'il était innocent va être rejeté.
Mais voyons.
Oui, ça va être rejeté comme preuve. Le juge, et là, c'est devant jury, imaginez. Fait que on va dépeindre l'homme comme étant un violent agressif par différents petits stratagèmes. Et en défense, on va rejeter tout ce que... Hey, ils avaient même fait venir... un pédopsychiatre, là, genre un des sommités, pour qu'il vienne expliquer comment on pouvait réussir à dissimuler de la violence faite aux enfants. Le témoin va être interdit. Fait que l'enregistrement est interdit. Ils ont dit, ah ouais, l'enregistrement est interdit, on va faire venir l'enquêteur, lui. L'enquête interdit. Je dis, là, c'était frappe. Il voulait un coupable. Ben, Chris, elle a été condamnée à 38 ans de prison pour homicide involontaire, de son du meurtre de son fils parce qu'elle l'a laissé dans les mains de ce gars-là. C'était, je te dis, j'étais assis dans ma blonde, elle écoute pas ça, c'est les émissions de débiles là, comme elle dit. Elle l'écoute au complet celle-là là. Puis c'était percutant, mais le juge, je pense, a réalisé, premièrement, il a interdit aussi les caméras parce que ce qui est hot de ces documentaires là, c'est qu'il s'est pas à rebours, c'est plutôt en amont. Ils ont commencé le documentaire avant même le cheminement, tu comprends? Aussitôt qu'ils ont la cause, ils embarquent. Puis là, ils suivent la femme dans la préparation de sa défense, dans également la préparation de la couronne, comment les preuves sont transmises d'un bord à l'autre. Alors, puis là, t'arrives, tu peux même assister au procès. Mais dans ce cas-là, le juge a refusé que les caméras de ce documentaire-là puissent avoir accès. Fait que ça se passe tout le temps dans les corridors. Mais il va réaliser, je pense, pas longtemps après, quelques mois après, comment, bon, le jury a été un peu... j'allais dire manipulé, parce que la totalité des preuves en défense ont été rejetées. Et donc, le juge, quand il va arriver au prononcé de la sentence, il va la réduire au mois qu'elle a fait. Donc, je pense que c'est 13 mois
c'est
au total.
C'est 13, mais c'est ça.
Il était fait. Elle avait fait 5 mois avant, puis elle avait fait des mois. Fait que les 13 mois étaient faits. Oui. Fait qu'elle a été libérée. Mais elle restera. Et tout au long, ça c'était impressionnant encore, puis ça, c'est très américain. Tout au long du documentaire, puis qui dure quand même sur une période de plusieurs mois, là, avant son procès, quasiment un an, elle a un bracelet à la cheville. Tu sais, la grosse motte noire, là, elle a un bracelet, là. Tu sais, pour uniquement le fait qu'elle aurait laissé son enfant à quelqu'un qui peut-être ne méritait pas de l'avoir. Et elle restera avec un dossier criminel toute sa vie, là, sur cette affaire-là. Honnêtement, c'est, tu sais, son chum du moment en qui elle avait une grande confiance se pend. Il tue son fils avant. Fait que elle perd tout, là. À un moment donné, elle va dans des mini-entrepôts, là. Et elle dit, c'est toute ma vie est toute là. Elle dit, là, je reste chez ma tante. Évidemment qu'elle a plus une scène. Elle a quelques caisses de plastique avec des... Elle dit, tout ce qu'il y a ici, je l'ai acheté avec mon argent. Puis là, il y a beaucoup d'affaires là-dedans qui sont des souvenirs de son fils, donc des jouets et des vêtements. Mais tu sais, c'est vous qui avez fait ça, là. Et c'était vraiment, vraiment touchant de voir comment...
Le sentiment de culpabilité de cette femme-là,
ouais,
va être sa plus grande sentence, là.
Oui, effectivement.
C'est de se sentir, de dire, hey, moi, je travaillais des chiffres de 12 heures, je décidais de confier mon enfant à cet homme-là que je croyais qui était bon, que j'aimais et tout. Je disais, pour elle, la plus grande sentence, c'est la mort de son fils, là.
Ouais, absolument.
Même si c'est pas elle qui l'a faite, même si cette peine de prison-là est totalement injustifiée, qu'il y a une grande injustice envers elle, là.
Exact. Puis, et c'est pour ça que, si des fois on transpose ça au Canada, nous autres, on est trop mou. Mais, il est où le juste milieu entre les deux? Mm-hmm. Puis là, je repensais à des procès où, par exemple, on savait que ça allait, on aurait dû savoir que ça allait mal tourner. Par exemple, des individus à qui on a laissé des enfants. Ben, c'est parce que j'ai des exemples, il y en a que je veux faire attention, mais tiens, m'en prendre une qui a tellement été discutée, puis ça fait plusieurs années. Cette femme de Drummondville qui...
C'est ça son nom?
Je me souviens pas de son nom. Je me souviens du nom du gars, Blanchette, là. Il me semble que c'était ça, Blanchette, son nom. Lui, le gars, le père de la famille. Elle avait 3 enfants. Elle était dans une profonde dépression. Et elle avait déjà laissé savoir qu'elle voulait s'enlever la vie et peut-être enlever la vie des enfants. Donc, elle avait...
Sonia Blanchette.
Sonia Blanchette, hein, c'est ça. C'est une mémoire pareille. C'est en quelle année, ça?
C'était en 2012.
2012, c'est pas si pire. Fait que, puis... Elle avait le droit de voir ses enfants, mais uniquement sous supervision de sa mère ou d'un membre de la famille. Puis sa mère était là, puis dans un petit appart, et Sonia Blanchette a dit à sa mère, ben va donc me faire un peu d'épicerie, je vais passer plus de temps de qualité avec les enfants. Puis quand la mère revient, Blanchette va avoir noyé les 3 enfants dans la baignoire de l'appartement. T'sais. Donc là, je me disais, est-ce qu'on aurait dû accuser la mère de négligence ou de quoi que ce soit?
Parce que t'es responsable de la surveillance.
T'étais responsable, puis là, on a des preuves que ça aurait pas dû arriver comme ça. T'sais, ça aurait pas dû être comme ça. Mais tu sais, dans le cas du docteur Turcotte, par exemple, ben lui, il avait le droit à la garde de ses enfants, puis il profite de la garde de ses enfants pour tuer les 2 enfants. Fait que ça, il y a pas de d'autres accusés possibles autour de l'histoire parce qu'il y a manipulé pour ça. Mais il y a d'autres situations où il y a des gens, tu sais, il y a de la violence faite à des enfants, bien souvent, qui vont être faites par des hommes, mais qu'il y a des femmes dans la maison.
Ben, il passe par-dessus.
C'est ça. Mais en même temps, c'est de le démontrer. Ben. Faut le démontrer. Et ça, la preuve était là, de le démontrer hors de tout doute raisonnable qu'il peut y avoir, donc, un laissé-aller.
Bon, évidemment, je t'ai parlé de l'histoire, moi, parce que c'est récent, là. Le monsieur Gillespie, il est mort vendredi.
OK. C'est ça qui... Ouais. Mais ça, toute leur aventure commence en 83, condamné en 84. Puis ça, là. Hey, c'est...
Fait que c'est pas dans le sud des États-Unis, là. C'est un Nouveau-Brunswick.
Exact.
Ça se fait. C'est possible partout.
C'est possible partout. La corruption n'a pas été inventée par une seule personne. Hein. C'est ça qui est clair. Dan Pou, ta nouvelle du jour.
Moi, ma nouvelle sérieuse, c'est arrivé en fin de semaine aux États-Unis, Steph. Puis je trouve ça vraiment triste. Puis ça me touche parce que j'ai fait ça. Dans ma première vie de radio, pendant 20 ans, j'ai organisé beaucoup de voyages sportifs. Tu le sais, tu l'as dit en nombre la semaine dernière. Tu es venu 2 fois avec moi à Baltimore et à Boston. Mais il y a un autocar de jeunes Québécois qui a pris de l'eau en fin de semaine.
Ben voyons,
à la limite de la Virginie et de la Caroline du Nord. C'est 2 programmes sport-études de Drummondville et de Saint-Hyacinthe. Puis le responsable de ce programme-là, Yannick Powers, est blessé. Là, fracture au visage, puis on va falloir l'opérer pour une fracture à la jambe également.
Des sport-études de quoi?
De baseball.
De baseball,
ouais,
OK.
Exact. On allait faire un camp en Floride. Tout ça a été annulé, tu comprendras. Le bus a pris de l'eau un peu avant 3h du matin. Puis moi, j'ai vraiment la chienne en auto. Donc, c'est pour ça que je conduis toujours. Puis, j'ai vraiment la chienne en autocar aussi, malgré le fait que j'ai fait, je te dirais, je ne les ai pas comptés, mais entre 20 et 25 voyages avec des auditeurs aux États-Unis pour aller voir du sport.
Mm-hmm.
On a lancé ça, Ray et moi, dans le fond. Puis là, Ray, à un moment donné, il a commencé à décrire les games des remparts, fait qu'il y avait moins de temps la fin de semaine pour partir avec des auditeurs. Mais l'idée originale...
Juste avant même Rêve sportif.
Là. Ah oui, Rêve sportif n'existait pas. Mm-hmm. Il y avait les sportifs en voyage à Montréal qui existaient.
Oui,
monsieur Laporte qui avait lancé ça, puis ça avait été racheté par les gens de la Cage au sport ensuite. Mais nous, on les faisait par nous-mêmes, les voyages.
Mm-hmm. Okay?
Aller au Canadien, aller-retour dans la même journée, c'est pas si grave, là, ça prend pas tant d'organisation. Mais aux États-Unis, 2-3 jours avec des billets pour les matchs, puis les hôtels, puis l'autocar et tout, c'était plus d'ouvrage. Antoine Bossinotte, à qui tu faisais référence la semaine dernière, m'a aidé beaucoup là-dedans dans le temps. Mais on a lancé ça, dans le fond, au début, quand les expos sont partis en 2004. Parce que là, on allait voir le match d'ouverture des expos.
À Washington.
Non, mais... À Montréal,
okay.
À chaque année.
Okay,
là, on n'avait plus de match d'ouverture au Stade olympique. Fait qu'on s'est dit, on va aller voir le match d'ouverture à Washington, la première année qu'ils sont allés là. Puis il y avait tellement un gros engouement qu'on a été seulement capable d'avoir des billets pour le 2e match de l'histoire des Nationals.
Okay.
Donc, c'est ce qu'on a fait. On est allé voir le 2e match. Mais ceci dit, je reviens à l'accident en fin de semaine. Moi, j'ai à peu près jamais dormi dans tous ces voyages-là. J'étais assis le premier banc en avant.
Okay.
J'étais guide du voyage. Puis je parlais au chauffeur, puis je disais... pas mal n'importe quoi, parce que tu peux pas avoir une discussion intéressante pendant 6-7 heures pour être sûr qu'il s'endorme pas. Mais j'essayais de parler au chauffeur pour être sûr de le garder réveillé tout le long de ces voyages-là.
Mais
la plupart des gens dans le bus dorment.
Oui.
Puis je te dirais que c'est ça qui est arrivé en fin de semaine aussi. Les jeunes baseballeurs, ils dormaient.
Je comprends. Mais donc, il n'y a pas eu de décès, mais il y a eu des blessés.
Il y a lui qui est particulièrement blessés. Les jeunes s'en sortent quand même bien.
Okay.
Il y a le responsable du programme sport-études. Là,
mais tu sais que je comprends ta crainte et tout ça, là, mais si on parlait en termes de kilomètres franchis par rapport au niveau d'accidents...
Il n'y en a pas, t'as bien raison, Stéphane, il n'y en a pas.
C'est rare.
Ben moi, j'avais bien confiance en tous les chauffeurs avec qui on faisait affaire dans le temps. Nous, c'était la compagnie Bel Horizon, une compagnie de Cap-de-la-Madeleine.
Okay.
Puis c'était toujours avec eux qu'on faisait nos voyages. Puis sérieusement, il n'est pas arrivé rien. Hey, on est revenu de Boston une fois, Steph. Boston, là, mettons là, qu'on va dire qu'en été, ça prend 6 heures, puis en hiver, 7 heures. Mm-hmm. Okay, c'est à peu près ça, là, Québec-Boston. Oui. On est revenu de Boston dans un voyage sportif. Ça nous avait pris 14 heures.
OK. Il faisait vraiment pas beau, là. C'était tough.
Les autos à gauche pas à droite dans le banc de neige, on en a vu beaucoup.
Oui, hein. Mais les autobus, c'est ça, c'est fiable. C'est, tu sais, les accidents d'autocar ici au Québec, c'est très rare. Mm-hmm. Je pense que le dernier, c'est un autocar Orléans ou, je sais plus, encore Orléans? Oui, Orléans Express. C'est dans le bas du fleuve, hein?
Keolis,
oui. Ouais. Bon, mais c'est dans le bas du fleuve. Puis tu sais, l'autre jour, je suis allé visiter Prévost-Cœur à cause de mon chum, Marco Prévost, qui puis là, je visitais, puis il dit, tu sais, l'assistance à la conduite, maintenant, les, tout ce que la technologie des autobus, le poids, puis de la manière que les gars conduisent, sont limités également au niveau de la vitesse. Écoute, c'est sécuritaire, comme ça se peut pas, là, les autocars et le transport par autobus. Fait que, je savais pas ça. Fait que c'est un voyage interrompu,
Oh oui, tout est annulé. Il n'y aura pas de camp de baseball là, pour ces jeunes-là en Floride.
Ouais, c'est plate, ça. Tout était prêt. Puis...
Je connais bien, moi, Yannick, qui est blessé dans cet accident-là. Okay. C'est un tabarouette de bon gars. Là. Heureusement, là, ça semble vouloir plutôt bien se finir dans les circonstances, mais toujours très, très, très souriant, très heureux. Fait que meilleure pensée avec lui.
Okay. Oui, quand j'entends une histoire comme ça, Je nommerai pas. À un moment donné, tu sais, dans une chambre d'hockey, on jase, OK? Fait que... Puis là, je joue avec un gars que je trouve super sympathique, puis super fin, puis je l'aime bien, puis tu sais, je le côtoie encore des fois aujourd'hui. Je le croise des fois aujourd'hui. Fait que... Puis moi, je savais pas son histoire. Fait que... Puis à un moment donné, il me compte... Puis là, je vois bien que tu sais, dans la chambre d'hockey, puis moi, quand je me suis occupé de la ligue d'hockey à Saint-Henri, Dan, t'étais déjà venu jouer, je pense.
Lundi soir?
Ouais, lundi soir, quand on était les deux équipes.
Ouais, dans la même chambre.
Ouais, il y avait une chambre semi-pro.
Ouais.
Il avait fait une chambre pour une équipe de hockey semi-pro qui était pas restée. Mais donc, les deux équipes, on s'est bien dans la même chambre.
Okay. Fait
que c'était encore bien plus le fun, là. T'as ton monde, on avait chacun nos casiers, puis c'était bien le fun. Fait que là, t'entends une histoire, puis tu dis, ah ouais, OK... Et là, j'apprends que le gars, sa femme était décédée. Fait que... Puis là, je le savais pas. Mais là, je dis, je savais pas ça. Puis je suis avec. Des fois, tu sais, je suis ma mère en même temps. Fait que je vais lui poser des questions. Puis il me raconte que il s'en allait en Floride avec des couples d'amis. Là. Je veux pas aller dans trop dans les détails parce que je m'en souviens pas non plus. Puis ça fait déjà très, très, très longtemps. Et que, justement, de nuit, tu sais, des fois, tu pars en Floride, c'est une trentaine d'heures de nuit, bien, on alterne les chauffeurs, puis ça se passe bien. Puis les autres passagers peuvent dormir dans l'auto. Puis, lui, il est avec son épouse, ils sont assis à l'arrière, je pense qu'il avait une minivan, et sa femme décide de s'étendre sur le banc en arrière, puis la tête sur lui, et arriva un accident dans la nuit. Pourquoi, comment, est-ce que je vais s'endormir, je ne sais même pas, puis je me souviens pas d'avoir même posé la question, mais ils vont être impliqués sur l'autoroute dans un accident. Je pense que le camion fera des tonneaux, la femme sera éjectée, et elle meurt. Était couché sur lui, là. Tu sais, comprenez-vous la tragédie? Puis il m'a conté ça, puis à chaque fois j'entendais ça, là, je repensais à cette histoire-là, que j'avais pas connue au moment où c'était arrivé. Mais c'est ça. Et ça m'a toujours marqué, des accidents de la route comme ça qui sont frappantes, là. Normalement, heureusement, des accidents d'autocar, c'est plutôt rare. Oui. Il y a eu celui de Humboldt, qui a été très médiatisé, là, l'équipe de hockey junior.
En Saskatchewan.
Oui. Sinon, pas tant. Ici, au Québec, c'était arrivé dans les années 70.
Les éboulements, bien sûr, dans les années 90.
Oui.
97, ça, de mémoire.
Oui. Mais dans les années 70, ça me semble une équipe
dans
de hockey junior.
Une équipe de Sherbrooke, ou c'était les Saguenayens qui revenaient?
Je sais pas. Mais il y avait pas eu 4 morts dans cet accident-là? C'est loin en tabarouette. Je dis 70, peut-être des années 60 même.
Ouais.
Fait que ça fait excessivement longtemps. Bon, mais tant mieux, merci. J'avais pas vu cette...
Novembre 74, les Castors de Sherbrooke.
Ah, c'est Sherbrooke, ça. OK,
Gaétan Paradis, qui était décédé. un jeune joueur de Drummondville. Ouais, ça s'est arrivé donc en...
Donc, un seul décès? OK. Fait que ça fait longtemps, tabarouette, là. Bon, ben voilà, les amis, on a fait le tour de ce qu'on voulait partager avec vous autres. Et on va s'arrêter là-dessus.